Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur vous, sur nous tous. J'avais prévu de prêcher ce matin, je vais le faire. On va apporter la parole du Seigneur, je crois que c'est important d'apporter des fondements. Mais le Saint-Esprit me dit que c'est important de prier. On l'a déjà fait une bonne partie de la matinée, alors qu'on louait Dieu, alors qu'on l'adorait à travers la louange, alors que des voix se sont élevées, alors que des sujets profonds ont été évoqués. Je crois que c'est important qu'on se lève en Église et qu'on intercède pour ces sujets, qu'on intercède pour nos sujets personnels aussi. Oui, je crois que l'Église a besoin d'un réveil. On a besoin que nos esprits soient réveillés, on a besoin que nos âmes soient réveillées, on a besoin que nos corps soient réveillés. Beaucoup trop de corps meurtris, beaucoup trop de maladies, beaucoup trop de dépression. Et je crois qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux, je crois qu'il faut qu'on revienne à la base. Ce que j'avais prévu ce matin, c'était de continuer à méditer, à partager autour du livre des Actes, et notamment sur cette partie de l'Église biblique selon le cœur de Dieu. Ce qu'était l'Église selon le cœur de Dieu, j'avais déjà commencé il y a un petit mois à vous partager un certain nombre de points. On a continué à le faire, François nous a apporté aussi des choses très profondes il y a quelque temps. Et on va continuer. Je vais sans doute me répéter, je vais sans doute dire des choses que vous avez déjà entendues ces dernières semaines, ces derniers mois, mais je crois que c'est important que ces choses-là, que la parole de Dieu, elle descende dans nos cœurs, qu'elle descende et qu'elle produise des choses, qu'il y ait une prise de conscience, qu'il y ait une vie intérieure qui germe et qui porte du fruit. Je crois que c'est essentiel. Et ce matin, j'avais vraiment à cœur de poursuivre dans cette lignée. Je vous avais partagé sur le livre des Actes. Et l'Église selon le cœur de Dieu, j'avais souligné 4 points, que c'était une Église qui était avant tout centrée sur Jésus-Christ, centrée sur la personne de Jésus-Christ. C'est vrai que les yeux du monde sont tournés vers Rome, là, depuis 15 jours. On parle du chef de l'Église et que tout le monde, les médias, tout le monde s'enflamme un petit peu pour savoir qui va être le nouveau chef de l'Église, le nouveau pape, quelle personnalité, quelle orientation politique, quelle est sa sensibilité, est-ce qu'il va être compatible avec Trump, avec je ne sais qui. Et finalement, les yeux du monde rivés sur ce qui est considéré comme l'épicentre de la chrétienté, là, à Rome, eh bien, moi, j'ai entendu très peu parler de Jésus, voire pas du tout. Est-ce qu'on a parlé du vrai chef de l'Église? Est-ce qu'on a parlé du Christ, de loin de Dieu, du Sauveur? Est-ce qu'on a saisi cette opportunité pour parler du vrai chef, du vrai roi, du roi des rois, de celui sur lequel l'Église doit reposer? Pas tellement. Et je voulais aujourd'hui donc insister, parce que j'avais abordé 4 points, je voudrais qu'on approfondisse 2 points. Souvenez-vous, les 4 points, c'était une Église centrée sur Christ, c'était une Église qui était remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit était à l'œuvre puissamment, c'était une Église qui était unie, solidaire, fraternelle. Et puis c'était une Église qui était envoyée en mission, qui allait vers l'extérieur et qui allait refléter Jésus. Donc aujourd'hui, et je trouve que c'est vraiment dans le déroulé, c'est ce fleuve qui coule aujourd'hui, on va se concentrer sur Christ et on va se concentrer sur l'Esprit-Saint. On a besoin de se recentrer sur Jésus et on a besoin que l'Esprit-Saint soit à l'œuvre dans nos vies, soit à l'œuvre dans nos cœurs. Donc on va prendre le temps de lire la parole, on va prendre le temps de méditer ces versets, On va prendre le temps de nous laisser interpeller. On va prendre le temps d'essayer de comprendre c'est quoi le projet de Dieu pour son Église. Au global, c'est quoi le projet de Dieu pour l'Église du Tabernacle ? Qu'est-ce qu'on veut ? Et qu'est-ce que Dieu veut ? Et comment on s'inscrit dans cette volonté parfaite ? Alors, ce qui est extraordinaire dans la parole, c'est que finalement, on trouve des tas de pépites, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. L'Église qui est centrée sur Christ, elle traverse toute la parole. Toute. Christ, c'est le fondement et c'est le centre de tout. C'est pas le pape, c'est pas tel leader de telle église. Jérémie a tout à l'heure introduit en disant que des tas de leaders s'étaient levés, avaient discuté, avaient partagé, avaient donné des avis, etc. Christ, c'est le fondement et c'est le centre de tout. Et lorsqu'on ouvre le livre des Actes, eh ben on voit que tout commence. Tout commence et tout se termine avec Jésus. Après sa résurrection, vous le savez, Jésus, il a passé 40 jours avec ses disciples. Il leur a parlé du royaume de Dieu, il leur a parlé des dernières instructions qu'il voulait leur laisser. Et puis, il leur a parlé d'un sujet central qui est la foi. Il leur a parlé de l'espérance qu'ils devaient conserver et puis il leur a parlé de mission. Et j'ai repris les actes et j'ai relu le premier verset des actes. Maxime, si tu veux afficher. Parce qu'on passe parfois un peu vite sur des versets. Et sur celui-ci, je me suis arrêté. Et quelque chose m'a frappé, un peu comme une révélation. Dans acte 1, verset 1, il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. » Et au verset 2, il est dit « Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. » Donc j'ai relu ce premier verset. Il attribue à la rédaction du livre des Actes et attribue à Luc, hein, le médecin bien-aimé, qui était le compagnon d'œuvre de Paul, qui a aussi écrit l'évangile de Luc. Et donc quand il parle du premier livre, c'est de cet évangile. Et il y a quelque chose de particulier, là, dans ce verset, sur lequel j'ai bloqué. Merci Hélène. Tout ce que Jésus a commencé de faire. Tout ce que Jésus a commencé de faire. Jésus, il a commencé quelque chose. Il a commencé. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite ? Si tu veux venir au verset 2, mon cher Maxime. Non, c'est le verset 2 de acte 1, s'il te plaît. Je vais le lire, c'est pas grave. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc Jésus, il a commencé une œuvre. Il a commencé une œuvre. Il a commencé à façonner et il a délégué la poursuite des travaux. Quand il est monté au ciel, il nous a délégué cette poursuite. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il a commencé cette œuvre. Et c'est nous qui avons la responsabilité de la poursuivre. Et on n'a pas d'autre mission, finalement, que de manifester, puisqu'on est l'Église, on est le corps de Christ, et on n'a pas d'autre mission que de manifester le Christ, Jésus, lui-même. Prêcher un Jésus-Christ que Dieu a fait Seigneur et Christ. Il est loin, il est le Messie de Dieu. Il a été quelque temps sur terre, il s'est manifesté. Et la mission de l'Église et notre responsabilité, c'est de continuer à le manifester. Lui et seulement lui. le glorifier lui et seulement lui, et aucun autre personnage. Aucun autre personnage. Et ce que Pierre va proclamer à la foule le jour de la Pentecôte, ça va dans cette ligne. Acte 2 au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, le chef de l'Église. Pierre, il ne prêche pas une philosophie, là. Il ne va pas prêcher une morale. Il ne va pas prêcher une organisation ou une tradition. Il va prêcher et annoncer une personne. Jésus-Christ, crucifié, ressuscité, prince de la paix, celui qui est la vie, la résurrection et la vie. Et toute la prédication de Pierre, elle va être centrée sur Jésus. Quand on regarde dans Acte 2, 36, quand ils sont descendus de la chambre haute, tout va être centré sur Jésus, sur sa personne, sur son œuvre et sur sa victoire. Et pourquoi Pierre, je me suis posé la question, pourquoi Pierre, il a autant de zèle, il a autant de force et de puissance. Alors bien sûr, il est rempli du Saint-Esprit, comme tous ceux qui étaient avec lui dans la chambre haute. Il y a beaucoup de zèle, beaucoup de hardiesse. Et puis il est à Jérusalem. Et à Jérusalem, il n'y avait pas que des habitants de Jérusalem, il y avait d'autres juifs qui venaient d'autres nations. Et Pierre, il va avoir cette prédication magnifique. En fait, le message qu'il va avoir, et qu'il va donner, et que de la part de Dieu finalement, hein, puisque c'est Dieu qui parle à travers la bouche de Pierre, bah, c'est un message qui va avoir une grande portée. Puisque là, c'est une première graine qui est plantée aux Juifs de Jérusalem, qui est l'épicentre de du monde hébreu, hein, du monde juif. Et puis des Juifs qui venaient d'autres nations et qui allaient pouvoir écouter ce message, qui allaient pouvoir l'intégrer et qui allaient pouvoir le diffuser là où ils allaient repartir finalement. Et ça, c'est important, c'est puissant, parce que Pierre, il centre une nouvelle fois cette prédication sur Jésus. Et ce que l'Église des Actes comprend, c'est tout début, cette Église qui était les 120 réunis dans la chambre haute, avait compris que Jésus, ce n'était pas simplement un prophète. Ce n'était pas un prophète parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'il y a une révolution quelque part à ce moment-là. Mais que c'est l'aboutissement de toute l'histoire biblique. Et c'est là où c'est magnifique quand on lit la parole. Et qu'on lit Pierre notamment, il dit dans Acte 2, verset 25 et jusqu'au verset 28, « Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. » Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Pierre, il cite le psaume 16 ici. Et il montre que David, il parlait déjà du Messie. Il parlait déjà de la résurrection. Il parlait déjà de la vie. Toute l'écriture, elle pointe vers Jésus. Et Pierre, il vient le marteler ça ici. Les sacrifices, les prophéties, les psaumes, les alliances, tout pointe vers Jésus. Et Jésus lui-même, il va dire aux disciples d'Emmaüs, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. » Donc l'Église des Actes, ce n'est pas une communauté qui est sans racine. Sans racine, S-A-N-S, racine. Elle s'enracine, par contre, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans toute la révélation de Dieu, sur la promesse faite à Abraham, sur la loi donnée à Moïse, sur les psaumes de David, sur les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, de Daniel. Et cette Église, eh bien, elle comprend, elle a compris. Quand les langues de feu sont venues sur eux, ce jour de la Pentecôte, que tout cela avait trouvé son accomplissement dans Jésus-Christ. Et ça, c'est merveilleux. Et franchement, ça me déchire le cœur quand depuis 15 jours, on met en lumière une certaine forme de chrétienté, entre guillemets, mais que Jésus n'est jamais mis en avant. Et que ce fondement, il n'est jamais mis en avant. Ouais, l'Église, c'est le corps vivant du Christ. Le corps vivant. Puisque plus tard, Paul, il va lui-même mettre une pierre à l'édifice. Et bon, on peut dire que Paul, c'est le grand théologien de l'Église primitive. Et il va dire, dans Éphésiens 1, au verset 22, « Dieu a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez, l'Église, ce n'est pas qu'une institution humaine. L'Église, ce n'est pas qu'une association ou même une simple communauté. C'est le corps vivant du Christ sur la terre. Christ, il vit à travers nous, à travers nous. Nous sommes le reflet de Christ. On est sa lumière. On est même des diamants pour lui. Et combien on a besoin d'être façonné. J'ai lu un truc qui m'a béni sur le diamant, justement. Vous savez, le diamant, ça peut être brut. Alors la lumière se reflète sur le diamant. Mais ça se reflète de manière assez basique et pas très homogène. Mais quand le diamant il est taillé par l'orfèvre, quand il fait des belles facettes, bien toutes les faces reluisent d'une manière extraordinaire. Et il y a une chose que je ne savais pas, pourtant j'ai bossé en bijouterie avant de travailler dans la chaussure, c'est que le diamant, il peut être taillé que par un ustensile ou un outil en diamant. On ne peut pas le tailler avec un burin en fer ou même avec de l'or qui est un métal précieux. C'est avec uniquement un diamant. Alors combien nous avons besoin d'être taillés par le diamant suprême qu'est Jésus-Christ ? Combien nous avons besoin de refléter cette lumière qui est la sienne ? Cette image, elle est très belle. Et moi, j'aspire vraiment à être taillé. Parce que je suis un diamant, vous êtes des diamants, on est tous des diamants. Et on a besoin d'être taillé par le diamant suprême qui est Jésus, pour que sa lumière puisse vraiment resplendir à travers nous. Donc Jésus, c'est la tête. Et nous, on est les membres, on est unis à lui. On est dépendants de lui. Et quand on fait de Jésus le centre, quand on fait de Jésus le centre de notre vie chrétienne, le centre de notre louange, de nos prédications, de tout ce qui concerne la vie de l'Église, eh bien, il se construit une vraie unité. Tu parlais, Jérémie, tout à l'heure, d'unité qui est tellement bafouée. Et pourtant, Jésus, dans Jean 17, au verset 21, il a prié cette unité. Et c'est ce qu'on doit prier aussi aujourd'hui. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Que le monde croie que tu m'as envoyé, c'est Jésus qui parle. Le monde doit croire que celui qui nous anime, que celui qui est la source de notre engagement, de notre vie, c'est Jésus et c'est personne d'autre. C'est Jésus. Et c'est vrai que je me faisais cette réflexion je l'ai un peu abordé tout à l'heure en voyant l'actualité. Je disais qu'il n'y avait aucun commentateur qui avait mis en évidence finalement le fait que le vrai chef de l'Église, c'est Jésus, et que c'est lui la tête et que c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Alors j'ai regardé, alors j'ai pas regardé les commentaires des évangéliques et des protestants et des catholiques sur la nomination de ce pape. Par contre, j'ai essayé de regarder ce que lui disait. Parce que finalement, maintenant que le cérémonial est terminé, maintenant que tout va rentrer un petit peu dans l'ordre et qu'il va prendre sa position, qu'est-ce qu'il va raconter au monde ? Parce que finalement, oui, on est tellement divisés, nous, qu'on n'a pas tellement d'impact à l'extérieur, mais l'Église catholique, elle a ce mérite, c'est qu'il y a une forme d'unité et que le monde la regarde. Et que le monde peut écouter ce que son chef peut dire au sujet d'un certain nombre de problématiques. Et je vous assure, j'ai été rassuré. Je suis désolé de vous le dire. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Par sa première homélie et par les premiers mots qu'il a cités. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Il a affirmé, le pape Léon XIV, je le cite, qu'il voulait se faire petit. Il voulait se faire petit pour que le Christ soit connu et glorifié. Il a encore dit que ce corps mystique de l'Église, il parlait de Jésus, est en position de phare qui éclaire les nuits du monde. Ça vous parle, ça ? Les phares ? Il disait qu'il y avait un contexte qui nécessite une urgence missionnaire, laquelle repose sur la sainteté de ses membres. La sainteté de ses membres. On peut vraiment prier aussi pour lui. Et on peut vraiment prier que le Saint-Esprit puisse réveiller notre vie. Réveiller cette vie intérieure. La vie intérieure de chaque chrétien, quelle que soit la dénomination. Que cette vie intérieure soit personnifiée par le Christ ressuscité. Et que ce soit au cœur de toute vision et de toute action de notre part qu'on doit engager. Et on prie vraiment que le monde chrétien soit imprégné par cette vérité. Et comme le dit le nouveau pape, je me permets de le citer à nouveau, hein, vraiment, m'en voulez pas. Et après, j'arrête. Il dit, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire l'unique sauveur et le révélateur du visage du Père qui s'est fait proche et accessible aux hommes en nous montrant un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter, qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Ça m'encourage. Je ne veux pas être un critique facile ou quelqu'un qui, parce qu'on n'a pas la même vision sur certains aspects, j'aimerais qu'on se réunisse sur des choses essentielles. Et ce qui me rassure, c'est que la première homélie du pape, elle a été fondée sur ces vérités-là. Alors comme on peut prier pour nos autorités, on peut aussi prier pour l'ensemble des chrétiens dans le monde, y compris les catholiques. Parce que oui, on a des limites. On est tous limités. Et pourtant, on a des capacités. On a tous des forteresses intérieures. On a tous des choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de vivre pleinement le plan de Dieu, qui nous empêchent pleinement d'entrer dans l'appel qui est le nôtre à le servir lui. Mais aussi à nous servir les uns les autres, à servir les autres, à servir le monde dehors, à servir notre prochain comme Jésus nous demande de le faire. Et c'est là que l'assistance du Saint-Esprit, elle est essentielle. Elle est essentielle. Parce que c'est grâce à cette puissance que l'Église des Actes, elle a émergé. Si le Saint-Esprit n'avait pas été à l'œuvre, il ne se serait rien passé. Tout aurait été bloqué. Et moi, je prie vraiment, et ça rejoint mon second point, que notre Église soit aussi remplie du Saint-Esprit. pour qu'on soit capable de dépasser ces limites, ces blocages, qu'on soit capable de dépasser toutes ces forteresses qui nous encombrent. Parce que cette église des actes, qui a été le début d'une explosion assez phénoménale, avec des conversions par milliers, eh ben elle était remplie du Saint-Esprit. Jésus l'avait promis. Avant même de quitter ses disciples, il leur avait fait une promesse extraordinaire. « Mais vous recevrez, dans acte 1, verset 8, « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus avait promis le Saint-Esprit, c'est la seule chose qu'il avait promis. Il n'avait pas promis une organisation, il n'avait pas promis une méthode, il n'avait pas promis une stratégie, il n'avait rien promis de tout ça, il avait juste promis le Saint-Esprit. Et c'est lui qui a fait le reste. C'est lui qui a fait le reste. C'est l'Esprit qui va rendre possible la mission, qui va leur donner le courage, qui va leur donner de la sagesse, qui va leur donner l'amour les uns pour les autres, qui va leur donner de la persévérance. Et la Pentecôte, c'est justement ce baptême dans le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Vous avez toutes ces langues qui descendent sur eux. Vous avez ce feu qui embrase l'Église. C'est un événement qui est unique, qui est fondateur. Et l'Église, elle naît dans la puissance de l'Esprit. Est-ce qu'on n'a pas besoin de renaître, nous aussi, de nouveau dans la puissance de l'Esprit ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça ? Est-ce qu'on n'est pas une église qui est timide ? Est-ce qu'on n'est pas une église qui est craintive ? Est-ce qu'on n'est pas une église qui est trop repliée ? Oui, parce que le Saint-Esprit n'est sans doute pas assez à l'œuvre. Notre esprit, c'est pas lui le coupable, hein ? Lui, c'est un gentleman. Lui, il nous interpelle. Lui, il nous dit d'avancer quand il faut avancer. Lui, il nous dit de nous arrêter quand on doit s'arrêter. Mais nous, on n'est pas toujours dans l'obéissance et on n'est pas toujours dans la foi. Alors quand on est timide, quand on est craintif, quand on est replié, bah, on ne témoigne pas, on ne sort pas, on ne reflète pas forcément Jésus comme on devrait le faire, on n'annonce pas avec audace la vie et la résurrection. Et on laisse parfois les esprits de mort se glorifier sous prétexte de liberté, parce que finalement, c'est ça, hein, tout ce qui se prépare, ce que Josette nous a décrit, c'est sous couvert de la liberté individuelle. Je suis libre de jouir de ma vie comme je le souhaite, y compris jusqu'à ma mort, et de choisir ma mort. Non, ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est celle que Jésus nous offre en nous affranchissant de cet esclavage. Dans les derniers temps, il est dit que le monde appellera bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors, on doit, comme dans cette église des actes, comme dans cette église primitive, avoir cette hardiesse, comme l'avaient les apôtres, comme l'avait Pierre. Et c'est le Saint-Esprit qui la donne. Dans acte 4, verset 31, devant le Sanhédrin, vous avez Pierre qui s'exclame. Lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole avec assurance. Le Saint-Esprit, c'est encore celui qui va conduire Philippe vers l'eunuque éthiopien. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est l'Esprit qui est à l'œuvre aussi. Quand il appelle Paul et Barnabas à la mission, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis le Saint-Esprit, il va donner des dons, il va donner des miracles. Il va donner des signes extraordinaires. Acte 19, verset 11 nous le dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. C'est Dieu qui faisait les miracles, ce n'est pas les mains de Paul. Paul, c'était l'instrument, comme on doit être l'instrument de Dieu. pour que ces dons, ces miracles et ces signes se manifestent. L'esprit, c'est pas un accessoire, c'est pas une option, c'est pas quelque chose qui vient en plus. C'est la troisième personne de la Trinité, c'est la plénitude de la divinité. Sans l'esprit, tout s'arrête. Mais avec l'esprit, tout devient possible. Tout devient possible. Le soudain, le miraculeux de Dieu devient possible. Et c'est ce que j'ai envie qu'on vive. C'est ce que j'ai envie qu'on vive. Je vais arrêter là, j'avais encore plein de points. Mais je vais arrêter là. Parce qu'on doit être cette église. Cette église qui garde le Christ au centre. Parce que nous aussi, on peut être tenté de mettre autre chose au centre. Mettre des traditions, mettre des programmes, mettre des préférences, mettre des leaders en avant. Mais l'Église, elle a de sens que si Jésus, il est au centre, que si c'est lui qui fait émaner la vie de cette assemblée. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, nous dit Paul dans 1 Corinthiens. Tout doit partir de lui, tout doit revenir à lui. Et puis on doit aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, notre témoignage, il est faible. Sans le Saint-Esprit, notre amour, il est dilué. Sans le Saint-Esprit, notre unité, elle est fragile. Elle ne tient pas. Zacharie l'avait d'ailleurs prophétisé, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ni par puissance, ni par force. Nous, on n'a aucune force, on n'a aucune puissance. On n'a rien. C'est le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, cette église des actes, c'est pas... Je pense que c'est pas un idéal inaccessible, même si l'église n'était pas parfaite et qu'elle avait aussi des défauts. Mais c'est pas un idéal inaccessible. Je pense que c'est même un modèle pour aujourd'hui. Je pense que si on garde Christ au centre et si on est rempli du Saint-Esprit, Dieu, il va accomplir au milieu de nous des choses extraordinaires. Extraordinaires. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce. Être rempli de l'Esprit, les frères, les sœurs, c'est pas... Je crois que c'est pas une expérience qui doit être unique. C'est pas juste... Je suis venu, il y avait une super louange, j'ai été béni, Seigneur, le Saint-Esprit m'a visité, c'était super. Bien sûr que c'est super, mais il faut que ce soit plus profond, il faut que ce soit plus durable, il faut qu'on se laisse conduire, qu'on se laisse transformer, qu'on se laisse renouveler chaque jour par le Saint-Esprit. Et comme les premiers disciples, on veut vraiment persévérer. Persévérer dans la prière parce qu'ils étaient imprégnés de ça. Ils vivaient la prière, ils vivaient cette dépendance à Dieu. On l'a vécu ce matin et c'est ce que je veux vivre maintenant. Et est-ce que le groupe de louanges, vous pouvez venir s'il vous plaît? Et est-ce qu'on peut reprendre ce chant merveilleux que vous avez repris tout à l'heure, que j'avais à cœur de reprendre? Georges est venu confirmer ça aussi. Règne en moi, libre de nos chaînes. Est-ce qu'on peut reprendre ce chant? Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière? Un temps de prière les uns pour les autres, un temps de prière pour cette Église, pour que le Seigneur nous recentre, pour qu'il nous recentre sur lui et uniquement sur lui, pour qu'il vienne nous réveiller. Qu'il vienne réveiller notre esprit, qu'il vienne réveiller nos cœurs, qu'il vienne réveiller nos âmes, qu'il vienne réveiller nos corps. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de revenir à toi, Jésus. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de communier avec toi comme jamais. De communier à ton amour, de communier à ta force, à ta puissance. De croire par la foi, Seigneur, que tout est possible. De croire par la foi que oui, même les lois iniques peuvent être balayées d'un revers de main. Parce que toi, Seigneur, tu le fais. Et parce que ton peuple s'élève pour le prier, pour intercéder, pour libérer la vie, pour libérer un esprit de résurrection, un esprit de révélation. Oui, Seigneur, tu es capable de visiter. Tu es capable de retourner. De retourner des autorités qui, influencées par les ténèbres, peuvent se retourner parce que ton Église se lève et que ton Église prie pour la vie. La vie, Christ au centre, rempli du Saint-Esprit, un esprit qui agit, un esprit qui relève, un esprit qui restaure. Alors qu'on va chanter ce chant, mon frère, ma sœur, si le cœur t'en dit, tu peux t'avancer. Et tu peux venir exposer tes besoins. Et qu'ensemble nous prions pour qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne te relever, vienne te restaurer, qu'il vienne arracher toute racine de maladie, de mal qui est encore en toi. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre et que l'Église se lève pour prier et pour briller dans le nom de Jésus.